Hier soir, à 18h justement, Donald Trump, 18h de notre heure, Donald Trump prêtait serment et devenait officiellement donc le 47e président des États-Unis. Beaucoup de défis l'attendent encore. On en parle avec Isaac Franco, analyste et chroniqueur de Chercher l'erreur sur Radio Judaïka. Il répond aux questions de Lucie Gilson.
Bonjour Isaac Franco. Vous êtes analyste politique, chroniqueur pour l'émission Chercher l'erreur diffusée tous les lundis soirs sur Radio Judaïka. Merci d'être resté avec nous en studio aujourd'hui pour donc commenter l'investiture du 47e président des États-Unis, Donald Trump. Alors, il vient de prêter serment, enfin en tout cas, il est en passe de prêter serment à 18h et on sentait bien depuis quelques semaines qu'il trépignait un peu d'impatience. Il a indiqué qu'il allait même révoquer de nombreux décrets et en prendre pas moins de 200 dès aujourd'hui. Il souhaite se démarquer de son mandat précédent.
Le 20 janvier 2021, il a également signé des dizaines d'arrêtés d'exécution. L'exécutif ordre tous les présidents lorsqu'ils sont investis, ils en signent toute une série. Donc c'est pas que Donald Trump inaugure quelque chose de tout à fait nouveau. Biden en avait signé également un très grand nombre. Il compte, Donald Trump, en signer une centaine. Je ne sais pas si ce sera la centaine en une seule journée, mais en tout cas, il y en aura effectivement de très nombreux. Il était déjà au pouvoir depuis le 5 novembre. Aujourd'hui, marquera cette officialisation. Mais je veux dire, la voix de l'Amérique, c'était déjà la voix de Donald Trump depuis le 6 novembre 2024.
Alors, son mandat s'ouvre sur une première victoire géopolitique, celle de l'accord de trêve entre Israël et Gaza. Certains Israéliens attendent beaucoup de son retour à la Maison Blanche, notamment pour faire pression pour libérer tous les otages. Et selon un récent sondage, 77% des Israéliens auraient confiance en sa politique au Moyen-Orient. Ils ont raison d'avoir confiance.
On verra. On se rappellera que avant d'être après le 5 novembre, il avait déclaré, il y a à peu près un mois, il avait déclaré que si tous les otages ne sont pas libérés, eh bien les portes de l'enfer vont s'ouvrir. Il avait dit tous les otages. Il n'y en a que 38. Si le deal va jusqu'au terme de la phase 1, il n'y aura que 33 qui vont être libérés. Ce qui veut dire que la parole de Trump était encore une fois assez exagérée. Il a menacé tout le monde. Si tous les otages n'étaient pas libérés, il n'y en a que 33 qui le seront. Pour l'instant, il n'y en a que 3. Donc on est encore très très loin du compte. Maintenant, effectivement, cela va au bout, si cet accord passe la première phase et va à la seconde, on aurait, au terme de la seconde phase, l'ensemble des otages vivants qui seraient libérés, mais qui laissent la restitution des dépouilles des otages à l'État d'Israël dans la troisième phase, c'est-à-dire à un moment où il n'y aura plus un seul soldat israélien qui se trouvera dans la bande de Gaza, qui garantira que le Hamas restituera ses dépouilles dans la troisième phase, alors qu'il n'y a plus un seul soldat israélien sur place. C'est à voir. Et je ne serais pas étonné, d'ailleurs c'est ce que je disais tout à l'heure dans Chercher l'erreur, je ne serais pas non plus très très étonné qu'il garde l'un ou l'autre otage vivant en le faisant passer pour mort.
Et donc, est-ce qu'on peut envisager que la politique américaine au Moyen-Orient va connaître un réel tournant avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche ?
Oui, je pense qu'il y aura un réel tournant, mais ça se fera sous le... ça sera comme l'Amérique le voit. Et il faudra jouer, il faudra danser sur la musique américaine. Il faudra accepter le rythme imposé par le président américain. Et d'ailleurs, on l'a vu, il a fallu forcer la main du premier ministre israélien pour qu'il accepte ce deal. Et l'envoyé spécial de Donald Trump au Proche et Moyen-Orient, Steve Witkoff, il était porteur d'un message assez peu diplomatique pour obtenir l'accord de Benjamin Netanyahu pour la signature de cet accord de libération. Donc oui, il y a certainement un changement, il y aura moins de contraintes qui seront imposées par l'administration américaine sur Israël, peut-être vraisemblablement une oreille plus attentive et plus bienveillante à l'égard des préoccupations israéliennes, mais ça devra s'inscrire dans un plan beaucoup plus large, c'est-à-dire eh bien, une éventuelle normalisation avec l'Arabie Saoudite, qui obligera peut-être les Israéliens à des concessions auxquelles ils ne pensent pas aujourd'hui. Ça passe également par le sort que cette administration américaine compte réserver au régime iranien et au danger que fait peser le programme nucléaire de la République islamique. Est-ce qu'il s'engagera à l'égard de l'Iran dans une recherche d'un meilleur deal, c'est-à-dire est-ce qu'il rentrera dans une négociation ou bien il donnera le feu vert à Israël pour en finir militairement avec cette menace. Donc, on ne le sait pas. Ce qu'on sait, en tout cas, et le passé parle pour l'avenir, c'est que l'administration américaine de 17 à 21 était une administration extraordinairement bienveillante à l'égard de l'État d'Israël. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que Trump est aujourd'hui infiniment plus puissant qu'il ne l'était dans son premier mandat. Aujourd'hui, il arrive plus fort que jamais. Je veux dire, toute son opposition a été laminée, littéralement laminée. Il n'en reste pratiquement rien. Le Parti démocrate devra se réinventer pour se chercher un avenir. Et puis, il y a d'autres priorités. Des priorités qui sont essentiellement domestiques. C'est lesquelles ? C'est la lutte contre l'immigration, c'est la baisse de la place du gouvernement dans la vie quotidienne des Américains, c'est une baisse des impôts, c'est un rééquilibrage des échanges commerciaux qui voit que les États-Unis ont un déficit commercial global de 1 000 milliards de dollars, c'est une absence de guerre, autant que faire se peut. Et puis c'est une épuration de l'administration, d'un grand nombre d'agences de l'administration. Je pense à la justice, je pense aux services de renseignement, je pense également à l'armée. Et puis il y a cette guerre qu'il compte livrer contre le wokisme, qui est une véritable guerre culturelle. Parce que le mandat de Trump, si vous voulez avoir une direction principale, ça sera la lutte, une espèce de restauration culturelle ou de révolution culturelle qui ferait du bon sens quelque chose de révolutionnaire. Donc il faut voir cela. Il y a d'autres préoccupations de la nouvelle administration que Israël, que l'Iran, que Gaza. Tout ça viendra au moment où cela conviendra aux intérêts américains.
Alors, vous l'avez un peu évoqué, il y a d'autres dossiers qui attendent Donald Trump qui ont été un peu éclipsés ces derniers temps par l'actualité, en tout cas israélienne. C'est l'avenir de la Syrie avec la chute du président Bachar al-Assad, les relations avec l'Iran, sa position également sur le conflit en Ukraine avec la Russie. Est-ce que là aussi on peut voir un tournant? Il a déjà exprimé une position forte là-dessus.
Oui, il a déjà exprimé l'ambition, en tout cas, de mettre rapidement un terme à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, parce qu'il considère qu'il n'y a pas d'issue à la guerre, en tout cas qu'on n'arrivera pas à dégager un vainqueur et un perdant dans cette guerre aussi longtemps qu'elle reste dans une logique militaire, que donc il faut en passer par une négociation, donc une négociation politique, diplomatique. Pour ce qui est de...
Poutine s'est dit ouvert d'ailleurs aujourd'hui à des négociations avec Donald Trump.
Bien sûr, et Zelensky également. Donc on négociera sur Russie-Ukraine. Maintenant, lorsqu'un certain nombre de membres de la nouvelle équipe de Donald Trump disent que, par exemple, à Gaza, il ne pourra pas y avoir ou il ne pourra plus y avoir de Hamas, qu'il ne pourra plus exister à Gaza de bases terroristes qui menacent la sécurité de l'État d'Israël, il faudra que l'administration américaine, la nouvelle, nous montre comment est-ce qu'on va arriver à priver le Hamas de son pouvoir qu'il détient toujours aujourd'hui à Gaza. Comment va-t-il s'en prendre avec les parrains du Hamas, c'est-à-dire le Qatar, que Witkoff vient de féliciter, c'est-à-dire l'Iran. Quelle sera la décision des Américains à l'égard de la menace iranienne, et également la Turquie, dont on sait la proximité avec l'administration Trump. Donc, lorsqu'on dit le Hamas ne pourra plus exister, et qu'on se passe de la solution militaire, si le deal va à son terme, il faudra agir politiquement. Et donc, il faudra faire pression sur les parrains du Hamas, que sont les trois pays que j'ai énumérés, c'est-à-dire l'Iran, qui est un ennemi des États-Unis, est un sponsor du terrorisme, mais également des États proches des États-Unis. Le Qatar est meilleur allié des États-Unis hors OTAN, et la Turquie, qui est membre, elle aussi, de l'OTAN. Donc il faudra voir quels seront les moyens que déploiera cette nouvelle administration pour faire pression sur les véritables parrains du Hamas pour qu'ils cessent de peser sur le devenir de la bande de Gaza.
Et un dossier sur lequel, à ma connaissance, il s'est moins prononcé, c'est l'avenir de la Syrie, n'est-ce pas ?
Oui, mais l'avenir de la Syrie, il est lié à la Turquie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quelle sera l'attitude de la nouvelle administration à l'égard de la Turquie et de son ambition de devenir le nouveau parrain de la Syrie, comme l'était hier l'Iran, jusqu'au moment où Israël a privé l'Iran de ses deux assurances-vie. Quelle sera l'attitude des États-Unis à l'égard de la Turquie si et quand la Turquie s'en prenait aux Kurdes dans le Rojava? Il faut savoir que les Kurdes ont été les meilleurs alliés de l'Occident dans la guerre contre l'État islamique. Est-ce que Trump acceptera de les abandonner une deuxième fois, comme il avait montré qu'il était capable de le faire en 2018? Ce sera voir. Et je pense que beaucoup se jouera sur le rôle qu'entend sur l'attitude des États-Unis à l'égard précisément des Kurdes. Et ça, naturellement, ça peut provoquer un clash entre Washington et Ankara.
Eh bien, Isaac Franco, c'est un dossier sur lequel je pense qu'on aura l'occasion de vous réentendre. En tout cas, je rappelle que vous êtes analyste politique et chroniqueur pour l'émission Chercher l'erreur, diffusée tous les lundis soirs sur Radio Judaïka. Merci beaucoup d'être resté avec nous ce soir.
Merci pour votre invitation, Lucie. Au revoir. Au revoir.